Nous allons terminer la septième leçon. Donc, on a fait la distinction la dernière fois entre l'outil et la machine. On va le revoir avec le deuxième texte de Marx. S'opère ici une inversion, vous vous souvenez, entre le rythme du corps et la cadence de la machine. Lorsque l'on se sert d'un outil, eh bien, on use forcément de cet outil, on se sert de l'outil, et on se sert de l'outil avec un certain savoir-faire. Mais lorsqu'on se sert d'une machine, en réalité, c'est d'une certaine façon la machine qui nous emploie, disait Marx, et c'est à l'homme de s'adapter à sa cadence. Vous voyez, c'est plus la même chose, hein. Il y a, comme sur une chaîne de montage, il y a une cadence qui est imposée par la machine. Et outre cette cadence, il y a un travail de précision opéré par la machine qui désormais exige de l'homme non plus un savoir-faire, mais le simple fait d'accompagner le mouvement de la machine, d'accompagner ce qu'opère la machine. Dès lors, à partir de là, vous vous souvenez, Marx faisait cette remarque assez étonnante, selon laquelle désormais on se retrouve face à une armée de réserves industrielles, puisque n'importe qui peut être employé. L'apparition de la machine comme disparition du savoir-faire, comme étant la chose principale, disparition du savoir-faire d'une part, mais aussi il n'y a plus la nécessité d'avoir une force physique qualifiée. Eh bien, l'apparition de la machine, c'est l'apparition du travail des femmes et des enfants. Désormais, l'industrie et la grande production industrielle va pouvoir employer des femmes et des enfants qui sont des salariés désormais. Je vous rappelle une chose, hein, que le salariat est quelque chose de très particulier, puisque désormais, on ne travaille pas en fonction d'un métier, mais en fonction d'un salaire. Est-ce que vous visez l'œuvre à faire, le travail bien fait? À partir du moment où ce sont les machines qui s'emparent du travail, ce que vous visez, ça n'est plus l'œuvre, mais c'est le salaire. Il y a une coïncidence entre le développement du travail industriel, le développement donc du salariat. Désormais, ce que vous attendez, c'est une paye. Ça aussi, hein, ça fait partie du monde industriel. Et puis, cette paye va vous permettre, je vous l'avais dit la dernière fois à propos du Fordisme, d'acheter les produits qui ont été fabriqués par les machines. Alors, je reviens sur cette question-là avec ce texte sur la fabrique. Marx distingue une manufacture et une fabrique. Et quelle est la grande différence? On y reviendra. Entre une manufacture et une fabrique, c'est que, comme son nom l'indique, dans la manufacture, on travaille de ses mains et il y a encore un métier. Mais dans la fabrique, justement, il y a cette automatisation par les machines. Voilà ce qu'écrit Marx, toujours dans le Capital, dans le chapitre « Machinisme et grande industrie ». « Dans la manufacture et le métier, l'ouvrier se sert de son outil ». Dans la fabrique, il sert la machine. Vous voyez, entre se servir d'un outil et servir une machine. Là, le mouvement de l'instrument de travail part de lui. Ici, il ne fait que le suivre. Dans la manufacture, les ouvriers forment autant de membres d'un mécanisme vivant. Dans la fabrique, ils sont incorporés à un mécanisme mort qui existe indépendamment d'eux. Il faudrait voir si Marx a raison de parler de mécanisme mort, enfin la distinction du vivant et du mort, je ne suis précisément pas la distinction qui s'opère dans les machines. Il cite à présent Engels, l'auteur de ce grand livre qui est « La situation de la classe laborieuse en Angleterre ». La fastidieuse uniformité d'un labeur sans fin, occasionné par un travail mécanique toujours le même, ressemble au supplice de Sisyphe. Comme le rocher, le poids du travail retombe toujours et sans pitié sur le travailleur épuisé. En même temps, voilà le commentaire de Marx, en même temps que le travail mécanique surexcite au dernier point le système nerveux, il empêche le jeu varié des muscles et comprime toute activité libre du corps et de l'esprit. La facilité même du travail devient une torture en ce sens que la machine ne délivre pas l'ouvrier du travail, mais dépouille le travail de son intérêt. Alors voilà, ça c'est la phrase décisive de ce texte. Écoutez bien, ce sera d'ailleurs un thème repris par Günther Anders dans la deuxième partie de l'obsolescence de l'homme. La facilité même du travail devient une torture, en ce sens que la machine ne délivre pas l'ouvrier du travail, mais dépouille le travail de son intérêt. Un des grands arguments du machinisme, c'est la facilitation. Tout devient plus facile. Vous n'avez plus à porter des lourds fardeaux, la machine s'en charge. Vous n'avez plus à avoir un savoir-faire qui vous exigerait des milliers d'heures d'apprentissage. La machine se charge de produire des effets sophistiqués, raffinés et complexes, sans exiger de votre part toute la sueur, toute la patience nécessaire à l'apprentissage. Et dès lors, c'est cette affirmation de la facilité qui va marcher. Regardez, tout devient plus facile. Vous voyez, le easy to do. Le problème, c'est que tout se vide aussi de sa consistance et que cette facilité même est un fardeau. La facilité devient le plus grand poids. Et il y a pire encore, hein. Le fait qu'on va, au nom de cette facilité, vous savez, mettre des musiques d'accompagnement, hein, une sorte de musique douce, comme quand vous travaillez à faire des courses au supermarché. C'est bien connu. Et c'est un travail, je vous le rappelle. Vous faites marcher toujours la machine industrielle en faisant cela. Mais c'est vraiment un dispositif assez intéressant. Donc, vous voyez, on vous affirme la facilité, mais la facilité, justement, prive le travail de son intérêt. Vous n'avez même plus le désir de bien faire. Et vous n'avez même plus la joie d'une réalisation, parce que vous le savez très bien que le plaisir de la réalisation passe aussi par la force de l'engagement personnel. Et c'est-à-dire, non seulement le fait que vous vous fatiguez, parce que ça fatigue toujours, mais vous voyez, le fait que vous avez été sollicité dans votre corps, dans vos mains, dans votre intelligence. Et ça va passer par des difficultés, mais toute cette difficulté, tout ce difficile du travail, c'est ça aussi qui va aboutir à la joie du travail bien fait. Mais cela même, vous voyez, vous est retiré par la machine d'après Marx. Donc, la facilité dépouille le travail de son intérêt. Voilà la thèse même hein, de ce passage. Dans toute production capitaliste... Oui, c'était une question. On s'était posé la question de savoir si Sisyphe... Vous savez, vous connaissez, il parle de Sisyphe, là. Sisyphe, vous savez, il devait toujours pousser... Enfin, on pense, c'est ça, bon... Il devait pousser le même rocher au sommet d'une pente, et puis à chaque fois, le rocher retombait, et il devait recommencer à le pousser. Vous savez, c'est ça le supplice infernal de Sisyphe. Mais imaginez en plus qu'on facilite la tâche de Sisyphe. Donc imaginez que non seulement la pierre retombe à chaque fois, c'est toujours la même chose, mais en plus, c'est même pas fatigant. Vous voyez, il n'a même pas besoin de faire un effort pour la monter. Est-ce que ce n'est pas encore plus infernal? Et c'est ça la question. Est-ce que le supplice du Sisyphe vient de ce qu'à un moment, il a à faire un effort, il aboutit à quelque chose, bon, il recommence, mais imaginez qu'il n'ait même plus l'effort à faire. et qu'il est obligé d'assister à la montée et à la descente permanente de ce rocher, vous voyez. Mais il n'a plus rien, vous voyez, d'une certaine façon. Voilà, imaginez cette facilitation extrême. Eh bien, la facilitation extrême pourrait être infernale. On peut imaginer un enfer de confort. À partir de cette thèse, hein, dans toute production capitaliste, en tant qu'elle ne crée pas seulement des choses utiles, mais encore de la plus-value... Ah, voilà, ça c'est très important aussi, vous avez vu. Hein. Il ne s'agit pas simplement de produire des choses, il s'agit de produire de la plus-value. Il reviendra, je l'avais dit, hein, toute cette organisation du travail par la machine est aussi en vue d'une productivité qui fait que les propriétaires de la machine, ce qu'on appelle chez Marx les capitalistes, hein, vous avez des propriétaires de la machine, des maîtres de la machine, et puis des serviteurs de la machine. Hein. C'est ça la division bourgeoisie-prolétariat. C'est autour de la machine que ça se fait. Hein. Tant qu'il n'y a pas de machine, il n'y a pas ces deux classes. Hein. C'est la machine qui va organiser la division de la société en deux classes. Et les propriétaires des machines, les maîtres des machines, emploient désormais n'importe qui, faisant éclater la famille, vous vous souvenez. Et puis, à partir de là, l'enjeu, c'est de pouvoir extraire de la plus-value. Ils ont investi en capital, ils doivent extraire de la plus-value par le dispositif. Les conditions de travail maîtrisent l'ouvrier, bien loin de lui être soumises. Mais c'est le machinisme qui, le premier, donne à ce renversement une réalité technique. Le moyen de travail converti en automate se dresse devant l'ouvrier pendant le procès de travail même sous forme de capital, de travail mort qui domine et pompe sa force vivante. Tout l'enjeu, hein, vous avez vu dans ce texte, c'est de distinguer un travail mort et un travail vivant. Et ici, le travail mort qui domine la force vivante de l'homme, c'est justement le machinisme qui l'introduit. Alors, je vous ai dit cela, c'est vrai que j'ai été peut-être maladroit, je n'ai pas tout dit, parce qu'il y a tout un aspect qui relève de notre thèse principale. Vous savez que chez Marx, ce sont les rapports de production, c'est le mode de production qui définit finalement le type de société dans lequel on va être, voire même la manière de penser d'une société. Vous savez cette phrase dont on dit que c'est l'économie qui est l'infrastructure chez Marx, et non pas la culture, non pas les idées. Eh bien, cette thèse-là est une thèse qui rejoint une chose que nous avons dite, c'est-à-dire que l'environnement technique conditionne notre manière de percevoir le monde, notre manière de connaître. C'est une thèse qu'on retrouve chez Heidegger, pour qui le monde primordial de l'homme, c'est le monde des outils, du savoir-faire, de la technique. Et si ce monde se transforme radicalement, eh bien la société se transforme. Et vous voyez, le passage d'une société qui était une société féodale ou une société hiérarchisée en plusieurs classes, vous voyez, il y avait plusieurs classes parce qu'il y avait des métiers différents, parce qu'on était dans un monde d'artisanat avec une forme de subordination d'un art plus élevé à un art d'un art moins élevé à un art plus élevé, etc. Et voilà qu'apparaissent les machines. Et la thèse de Marx, c'est que l'apparition des machines, c'est la disparition des métiers, la disparition de cette société hiérarchisée pour faire apparaître une société divisée en deux classes. De là, la lutte des classes qui est organisée par le capitalisme qui est profondément en lien avec le machinisme. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a des machines qui se substituent à toute la variété des métiers, qui fait disparaître le travail avec savoir-faire, si vous voulez, le travail vivant. Il n'y a plus qu'une sorte de dispositif mécanique qui propose un travail mort. Et dès lors, les deux classes sociales se déterminent autour des machines, vous comprenez ? C'est la machine qui fait la partition désormais de la société. Partition entre ceux qui sont les propriétaires, les maîtres des machines, qui ont investi pour acheter ces machines et pour les faire marcher, si vous voulez, et de l'autre côté, ceux qui vont servir ces machines, d'accord ? De telle sorte que l'enjeu n'est plus le savoir-faire lui-même, n'est plus le métier, n'est plus la fierté du métier ou de l'œuvre, mais de produire de l'utile pour extraire de la plus-value. Et extrayant cette plus-value, bien, qu'est-ce qu'on fait ? On dégage de l'argent. C'est ça qui est essentiel. D'une certaine façon, il y a une double aliénation. C'est l'aliénation de l'ouvrier lui-même par rapport à la machine, mais même le capitaliste est aliéné parce qu'il n'a plus lui-même de savoir-faire, sinon le savoir investir, manier l'argent, etc. Vous voyez, il ne produit plus d'œuvres non plus. Il n'y a plus de métier à proprement parler. Il ne reste plus que les métiers de production de plus-value. Donc il y a une sorte de double aliénation dans les deux sens, produite par le machinisme. Vous allez me dire, mais Marx, qu'est-ce qu'il voyait comme issue à cela ? Eh bien, il disait la chose suivante, il croyait que le nombre de la masse des travailleurs allait de plus en plus augmenter, mais elle serait de plus en plus mise au chômage. Donc, au bout d'un moment, il y aurait une révolte du prolétariat, des serviteurs des machines, qui allait prendre le pouvoir. Et l'enjeu, c'était de créer une société communiste, parce que, vous voyez, la partition se fait autour de la question de la propriété des machines. Qui a la propriété ? Et la solution qu'a trouvé Marx, au final, c'était de dire, justement, il n'y a plus de propriétaires. Donc, on aura un monde mécanisé, mais il n'y a plus de propriétaires, donc désormais les machines tourneront, et puis voilà, on se lève le matin, et puis on décide peut-être d'aller travailler un petit peu à l'usine, mais on peut aussi ne pas y aller, on tourne autour, vous voyez, des machines, mais on a beaucoup de temps pour faire un travail plus créatif. Donc on part à la pêche, on fait un peu de poésie, de musique, etc., les machines prenant en charge tout ce qui est la production de l'utile. C'est pour ça que Marx voit la disparition des métiers, voit qu'il y a un problème au niveau du travail, mais la solution pour lui, au final, alors même que, encore dans sa critique du discours du Gotha, etc., du parti, vous savez, qui était un parti déjà pour des travailleurs, etc., en Allemagne, il affirme la valeur du métier, mais petit à petit, la vraie question va être plutôt qui est propriétaire des machines plutôt que le métier, plutôt que le savoir-faire. Donc il y a une sorte de glissement où au départ, il voit, il constate cette disparition, mais il, et c'est sa force aussi, il ne se veut pas réactionnaire, il ne va pas suivre les ludites, ceux qui vont casser les machines. Il ne va pas avoir la même pensée que ceux qui vont suivre, je pense à William Morris, à John Ruskin, qui vont réhabiliter le travail manuel et l'artisanat contre l'industrie. Non, lui, il dit, vous voyez, il n'a pas une pensée réactionnaire, il pense qu'il faut pousser le système industriel à bout et qu'à la fin, il y aura peut-être du métier qui reviendra, mais du métier chouette, vous voyez. Et on fera de la sculpture, on fera de la... Et puis, toute la production utile, c'est l'industrie qui va le prendre en charge. Mais ce que n'a pas vu, ce qu'il a entrevu, ce qu'il entrevoit là, mais ce qu'il n'a pas aperçu entièrement, c'était un problème vraiment intrinsèque au machinisme, qui est lié au fait que, à la place de l'œuvre, ce qui va préoccuper désormais les hommes, c'est l'argent. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez être dépouillés de tout savoir-faire, mais on va faire en sorte que tout le monde subisse non pas l'aliénation du prolétaire, mais l'aliénation bourgeoise. Donc on va créer une classe de petits bourgeois, au sens où on ne va pas simplement prendre votre travail et ne plus payer, et ne payer que votre force, le renouvellement de votre force de travail, mais on va vous donner un vrai salaire assez conséquent pour que vous puissiez avoir des parts dans l'entreprise éventuellement, pour que vous puissiez acheter les produits qui sont faits par le système industriel, etc. Donc il n'y a plus, le projet c'est qu'il n'y ait plus d'aliénation prolétarienne, mais il va demeurer cette aliénation bourgeoise où toute la question, c'est d'avoir suffisamment d'argent pour s'acheter les produits des machines. Il n'y a plus la et donc aliénation au sens où il y a la perte malgré tout du travail vivant. Ce que va réaliser Ford, c'est-à-dire l'idée de transformer l'ouvrier en consommateur, de donner un salaire pour que les ouvriers, parce qu'il faut écouler la surproduction, de donner un salaire aux ouvriers et non pas les exploiter au sens où on les prive de salaire, salaire toujours plus intense, plus grand aux ouvriers, même à la fin, admettons, hein, les ouvriers deviennent co-gestionnaires éventuellement avec Ford, on peut imaginer la société, c'est ce qu'on voit maintenant, hein. Le nouveau capitalisme, c'est pas un capitalisme paternaliste avec une sorte de tête en haut, on peut imaginer, hein, même qu'on réduise l'écart des salaires, vous savez c'est un grand thème, hein. C'est dramatique, les écarts des salaires, on en a parlé avec Alain Caillé, hein, de 1 à je sais pas 10 000, vous voyez, multiplication, c'est complètement fou. Alors que Platon parle d'un écart qui devrait être normalement de 1 à 5 entre le plus bas et le plus haut revenu. Donc un écart. Admettons même qu'on ajuste l'écart des revenus et que, voilà, on gagne tous pas mal d'argent finalement. Et c'est ça la revendication souvent de la gauche. C'est une revendication autour des salaires. Vous voyez ? Mais ça ne change rien. Ça ne change rien parce que vous avez un meilleur salaire, mais votre but, ce n'est pas de produire des bonnes œuvres. C'est pas, vous n'avez pas la joie du travail bien fait. Comprenez ? Vous êtes dans un monde qui est entièrement dominé par l'argent. Même s'il y a une égalité salariale, vous restez dans cette aliénation. Et ça, c'est tout un combat de la gauche, vous voyez, qui pose problème. Parce que si l'enjeu, c'est l'égalité des salaires, l'égalité, est-ce qu'on a résolu le problème ? Est-ce qu'il n'y a pas un problème qui est lié au machinisme lui-même ? Ou plutôt à un mode où, quand on va travailler, ce n'est pas le fait d'avoir un savoir-faire et de produire une œuvre qui est en jeu, mais de gagner un salaire. Comprenez ? Pour pouvoir aller faire quoi ? Ben consommer. Vous comprenez le problème ? C'est pour cela que vous avez des mouvements aujourd'hui comme pièces et main-d'œuvre, mouvement un collectif grenoblois très intéressant, ce sont des anciens vraiment de gauche, mais qui se sont éloignés de la gauche parce qu'ils disent le problème, ce n'est pas l'ajustement des salaires pour qu'on soit tous des bons gros consommateurs. Le problème, c'est la réappropriation du travail. La réappropriation du travail, la redécouverte des métiers, la redécouverte... Vous voyez, c'est ça l'enjeu. Oui, Ferdinand.
Mais même dans des métiers qui sont aujourd'hui encore artisanales, c'est toujours le salaire qui compte. Donc comment est-ce que le travail pour une œuvre, même dans l'art...
Mais en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que, la question que vous posez, c'est le problème qu'on aborde depuis le début, est-ce qu'il vient de la technologie comme telle, donc le passage de la techné comme savoir-faire à une technologie mécanique ou machinique, ou est-ce que finalement c'est un problème lié à l'idéologie du productivisme et de l'argent ? C'est ça ce que vous êtes en train de poser comme question. C'est une question décisive. C'est peut-être la question la plus importante. C'est une question qu'on s'est déjà posée, parce que je vous ai dit, en fait, Est-ce que c'est la technoscience qui est le problème? Ou est-ce que c'est le management technoscientifique lié à la logique, finalement, de la plus-value, de l'argent? C'est ça la question. Et le vrai problème, c'est que la société industrielle, finalement, combine les deux. Il y a un lien entre les deux. Il y a une origine à la fois qui est celle de la technoscience qui permet l'apparition des machines et donc le découplage entre la conception et l'exécution. Donc ça, on va en parler, c'est la prochaine leçon, vraiment, ce découplage-là. Et puis, de l'autre côté, effectivement, ça permet aussi... Alors, comment est-ce qu'on compense ce découplage? En donnant un salaire, en donnant... Parce que vous voyez, travail facile, mais le travail vidé de tout savoir-faire, le travail qui n'a plus rien de gratifiant en lui-même, fait qu'on doit forcément le compenser par du salaire. Et comme on n'a que le salaire, alors les gens, ils vont avoir tendance à vouloir saboter le travail. Donc, on va créer des postes de contrôle, d'audit, etc. C'est assez incroyable, vous savez, la multiplication des métiers de contrôle à l'intérieur des entreprises. Ce qui montre bien, en fait, que plus personne n'a envie de bien travailler. Vous voyez, bon. Parce que, mais ce n'est pas qu'ils ont envie de bien travailler, c'est qu'on ne leur donne pas la possibilité de bien travailler. C'était la remarque que faisait Adam Smith. Hein. Adam Smith avait une idée assez forte, je ne sais pas si vous savez, mais Adam Smith critiquait la division du travail, enfin disant, c'est ça qui va faire la performance, mais il disait... Pour les travailleurs, la division du travail, pas une division sociale, mais une division à l'intérieur de la tâche, faisait que c'était malheureux, on faisait qu'une toute petite partie. Et ce n'est pas la question de l'usine, hein, cette séparation, c'est aussi le travail de bureau. Vous voyez, vous faites un tout petit, vous êtes pris dans une multinationale, vous savez, vous n'avez aucune visibilité. Et il disait, ça c'est terrible. L'avantage du marchand, et c'est ça qui faisait la classe sociale marchande prenait le dessus, c'est qu'elle avait une vision beaucoup plus synthétique. Elle avait un objet, elle avait à le vendre, elle rencontrait des personnes. Et c'est ça qui expliquerait le passage des marchands, qui était la classe sociale la plus basse, au fait que ça devient la classe sociale la plus haute. Parce que tous ceux qui avaient vraiment un métier disparaissent. Il n'y a plus vraiment de producteurs, il n'y a plus qu'un dispositif qui produit des choses. Et eux, ils ne sont que des rouages du dispositif. Et il n'y a plus que le marchand qui a encore un lien entre sa pensée et son action. Dire le dernier art qui reste, le dernier savoir-faire qui reste, c'est celui de du marchandage. Le monde de la production crée un monde où c'est le marchandage qui devient la dernière forme où on a encore quelque chose d'un peu dynamique. Oui, Magali.
Est-ce que l'idée politique de faire un
La question du salaire de base ne résout rien et peut devenir... je veux dire, il y a deux choses. Il y a l'idée de donner un salaire de base pour permettre à n'importe quel homme de vivre selon sa dignité. Donc ça, c'est un enjeu, si vous voulez, moral. Mais du point de vue, je dirais, politique et social, le salaire de base ne peut être que le parachèvement d'une société entièrement consumériste. Vous avez un salaire, vous allez acheter les marchandises. L'essentiel, c'est qu'on prélève un impôt... On réinjecte l'argent et le revenu minimum qui fait que, après, vous pourrez acheter dans les mêmes magasins que tout le monde. Mais la vraie question, c'est plutôt comment je me réapproprie le travail. Comment est-ce que je reprends les choses en main? Mais ce n'est pas par le revenu minimum que vous reprenez les choses en main. Vous reprenez une vie, ça c'est sûr, mais vous pouvez n'être qu'un consommateur, sans main. Enfin, sans autre rapport à la main que d'appuyer sur des boutons, c'est ça ce que je veux dire. Ou d'ouvrir des barquettes de plats cuisinés. Oui ?
Pour rebondir sur la question de Ferdinand, est-ce que ce n'est pas une fausse question de demander si c'est la technologie le problème ou est-ce que c'est
l'argent ?
Parce que les deux sont tellement intriqués et sont tellement...
Alors,
tellement qu'en fait,
c'est vrai...
C'est impossible de distinguer quelle est la part de... Il y a une facilité due à la technologie qui...
D'abord, là où vous avez raison, c'est-à-dire qu'on peut difficilement distinguer la question du développement de la technologie et le développement d'une société marchande, donc où c'est l'argent qui fait la transaction toujours, ou le rapport au monde... le rapport d'acquisition au monde, c'est que, d'abord, de manière très simple, pour acheter des machines, il faut investir. Et souvent, ça demande beaucoup d'argent. Donc voilà, déjà, c'est ça qui va faire le partage. la machine va elle-même déqualifier le travail, donc on compense en donnant de l'argent. Et puis il faut écouler la surproduction, la production, donc on donne de l'argent, etc. Donc ça c'est la première chose, on peut voir les liens qu'il y a entre eux. Mais il y a peut-être un lien encore plus profond, et je ne vous ferai pas ce cours cette année, on pourrait faire un cours entier, peut-être l'année prochaine il y aura un module sur l'argent justement, vous pourrez venir. Je vais demander à Massimo Amato, qui a fait un très beau livre au début de l'année qui s'appelle L'énigme de la monnaie, peut-être de venir. Et Massimo Amato, c'est beau comme nom, hein. Le plus aimé, il s'appelle. Il est maximalement aimé. Est-ce que l'argent n'est pas lui-même un objet technique et n'est pas finalement une des premières technologies, le premier appareil, on va parler de l'appareil juste maintenant. Ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on peut aussi penser l'argent comme dispositif, comme Gestell, au sens heideggerien. L'argent implique un certain rapport au monde, un certain dévoilement du monde, une certaine manière de saisir, ressaisir les choses, ou plutôt de ne plus les saisir. Enfin, ça permet une possession qui est aussi une forme de dépossession, etc. Est-ce que ce que j'acquiers par l'argent me permet vraiment d'acquérir les choses? On en avait parlé à un moment donné, vous vous souvenez, quand on avait parlé de la question de la pauvreté, de qu'est-ce que c'était avoir quelque chose, est-ce que ce que j'achète, je l'ai vraiment. Donc, vous voyez, l'idée que la monétarisation de l'économie est déjà, cette monétarisation, est déjà une forme de dispositif, déjà une forme de technologie sociale. Voilà, ça c'est un point qu'il faut sans doute aborder. Donc, j'ai pris le texte de quelqu'un tout à l'heure, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Pardon ? Ah oui. Voilà. Alors voilà pour conclure sur cette division entre l'outil et la machine, cette distinction entre l'outil et la machine. Et cependant, nous sommes allés vers autre chose encore que la machine. C'est ce que je vais appeler l'appareil. Il est très important de faire cette distinction entre une machine et ce que l'on va appeler un appareil, avec le sous-entendu qui est l'appareil électronique. On ne fait pas assez la nuance. Alors, il est certain que ce que disait Marx sur la facilité qui était donnée par la machine, l'appareil le donne encore plus. L'appareil fait que vous n'êtes plus rivé à une seule tâche, vous voyez, tout le temps. Vous pouvez avoir un écran avec plein d'images dessus, plein de... Et bon, l'appareil aussi a cette grande différence, laquelle, d'après vous? Quelle est la première forte différence entre une machine et un appareil? J'en avais peut-être suggéré la dernière fois, je ne sais plus, mais... Pourquoi est-ce que ça n'est pas du tout la même chose? Il y en a un qui... Alors, les deux vont impliquer l'homme, hein. Il y a toujours l'homme, ne serait-ce que pour produire, pour entretenir, pour accompagner. Lequel serait le plus autonome, d'après vous? Oui, c'est ça, vous ne savez pas lequel, vous cherchez un point de distinction. Oui.
L'appareil est moins lié au matériel, à la matière.
Ah, ça c'est intéressant. Il est moins lié à la matière. En fait, il est toujours lié à la matière, mais en tout cas, il le montre moins. Ça, c'est une...
Mais la matière n'est plus qu'un moyen d'interaction avec tout ce qui est derrière.
D'accord, qui est toujours matériel, mais effectivement, déjà, vous avez raison, l'idée peut-être d'une relation avec un réseau qui est beaucoup plus vaste, avec l'appareil électronique. Et oui, ça, c'est un point fondamental. Et donc, il va y avoir aussi, ça, c'est intéressant, hein, le fait que le matériel, le hardware, tend à s'effacer, à disparaître. On ne le voit plus, en tout cas. Celui qui manipule l'appareil ne voit plus le hardware. Damien ? Bah, l'appareil, bien sûr, a des batteries, voilà, il a quand même sa propre force. On a toujours un aspect automatique dans tout appareil. Mais peut-être qu'effectivement, là, vous avez raison, c'est intéressant, c'est que dans l'appareil, on ne voit plus la force motrice. La machine manifestait son mécanisme de mouvement. Vous voyez, si vous regardez, vous souleviez un capot de voiture ancienne, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez vraiment le moteur, un moteur à explosion, imaginez, la turbine, vous voyez les rouages, vous voyez tout. Alors que quand vous êtes dans un dispositif électronique, d'une certaine façon, vous ne voyez plus rien. Il n'y a plus rien à voir. Ça, c'est très intéressant. Seulement l'effet. Vous voyez ? Mais la production de l'effet tend à disparaître. Ça, c'est très intéressant. La production même de l'effet, la manière dont l'effet est produit, tend à disparaître. Et quand vous aviez une vieille locomotive, imaginez, hein, vous avez vu sans doute Buster Keaton, le mécano de la Générale, si vous ne l'avez pas vu, il faut que vous voyez ce film prodigieux. Et un problème, hein, c'est que Charlie Chaplin l'a emporté sur ses rivaux un peu trop, et qu'on oublie Buster Keaton, qui ne souriait jamais, je vous l'avais déjà dit, hein, c'est un des grands principes, hein, alors que Chaplin est toujours des moments de compassion, vous savez, il est toujours dans ses... La compassion, le sourire, le gentil clochard, etc. Buster Keaton, il n'a aucune compassion, il ne sourit pas. Son père le tapait quand il était petit, il faisait des spectacles avec son père à chaque fois qu'il souriait. Et donc, il est toujours impassible, il est extrêmement mélancolique, et puis même parfois, il est cruel, il est complètement amoral, quoi, Buster Keaton, souvent, enfin. Et c'est très drôle aussi à cause de ça, c'est un autre univers. Voilà, vous avez aussi Harold Lloyd. Voilà. Et c'est souvent en lien aussi avec le développement d'une certaine société qui est la société industrielle. Les temps modernes de Chaplin, le mécano de la Générale. Vous voyez, c'est intéressant. Hein. Donc, vous regardez les temps modernes, vous voyez, et il y a une sorte de drôlerie cruelle de l'homme qui est pris dans ce dispositif qui est celui de la machine. Mais quand vous voyez le mécano de la Générale, vous voyez cette locomotive où vous voyez un mécanisme qui est presque complètement apparent. Vous voyez... Le charbon qui est mis comme ça dans la chaudière de la locomotive, vous voyez la fumée qui sort, vous voyez le mécanisme qui se met en branle, mécanisme splendide, avec, vous savez, il y avait une sorte de barre sur les roues, il y a même une scène magnifique où il est avec sa fiancée assis sur ces barres, et on les voit monter et descendre, vous voyez, comme ça. Et ça effectivement, il y a le mouvement apparent, oui. Gilda. Ça, c'est aussi très intéressant. L'appareil entre dans les foyers, on n'est plus dans une machine. C'est intéressant, bon, vous avez certaines machines qui pouvaient être mécaniques encore, mais d'une certaine façon, l'apparition de l'appareil, c'est aussi l'invasion du domicile, de telle sorte que l'appareil est domestique ou ménager, on parle des appareils ménagers, l'appareil ménager, donc... non seulement le Thermomix ou l'aspirateur, mais bien sûr la télévision, etc. Tout à fait. Alors, je voudrais juste vous faire une petite remarque. Il peut y avoir un enthousiasme pour les machines. Le futurisme, qui a été un mouvement poétique, a vraiment été du côté de cet enthousiasme très fort. Mais surtout, si vous regardez certains films... des années 20-30, vous avez des films en noir et blanc. J'en avais vu un au Centre Pompidou à Paris, où on voyait vraiment des rouages, des dispositifs se mettre ensemble. Voyez. Et donc voilà comment un arbre avec un mouvement linéaire actionnait quelque chose qui était un mouvement circulaire, comment un ovale venait s'inscrire dans un cercle par des engrenages et produisait donc des effets de mouvement, les différences de rythme, etc. Si vous voulez savoir ce qu'est une machine, et si vous voulez comprendre la beauté d'une machine, vous devez aller, donc je vous l'avais dit, à Fribourg, au musée Tinguely. Et vous allez au musée Tinguely, vous voyez où c'est, hein ? Donc, hein, j'avais dit, à côté de l'adoration eucharistique. Mais vous allez toujours à l'adoration, au cordelier, et vous oubliez qu'il y a le musée de Tinguely et Niki de Saint-Phal. Mais Tinguely montre, utilise des machines, produit des machines inutiles, donc qui ne produisent rien. Il y a une forme d'inutilité de la machine. Hein. Il défonctionnalise la machine, mais il manifeste le caractère esthétique des rouages, même du caractère symbolique des rouages. Vous avez des machines qui sont censées représenter la virilité masculine. Imaginez ce que ça peut être. Hein. Vous actionnez une sorte de gros piston. Et il montre comment la masculinité peut devenir phallique, monstrueuse, à travers les machines. Donc, il arrache la machine à la fonctionnalité de production et il en fait un dispositif esthétique et symbolique. Et dès lors, il pouvait y avoir vraiment une sorte de fascination devant le domaine de la machine, face au domaine de la machine. Je vous ai pris, pour vous l'évoquer, un poème qui est à moitié ironique de l'un de mes poètes préférés, Fernando Pessoa. Pessoa, c'est un poème de 1914, vous voyez, grande période aussi du futurisme. Il a écrit à travers des hétéronymes. L'hétéronymie est la grande pratique de Fernando Pessoa, c'est qu'il il invente d'autres poètes. Là, ce sont des poèmes de... ce sont les grandes odes d'Alvaro de Campos. Mais sinon, il écrit aussi sous le nom de Ricardo Reis, sous le nom du magnifique Alberto Caeiro. Et alors, c'est incroyable, il fait des œuvres de plusieurs poètes. Parfois, il apparaît par rapport à ses œuvres en tant que Fernando Pessoa. Par exemple, Alvaro de Campos va écrire sur un texte qu'a écrit Pessoa. Et Pessoa va écrire une étude sur la poésie d'Alvaro de Campos ou d'Alberto Caeiro. Donc, l'idée, c'est de dire, après tout, pourquoi attacher une œuvre à un nom ? En plus, il y a en nous, en tant que poète, plusieurs possibilités esthétiques qui sont en nous, donc il les a réparties entre plusieurs poètes et il a créé une sorte de polyphonie dans son œuvre et en plus une polyphonie qui a une certaine forme de dissonance. C'est pas que tous ces poètes s'accordent. Vous voyez, il y a des moments, il y en a certains qui sont plus mystiques que d'autres. Il y en a voilà. Et alors Alvaro de Campos, sa force, c'est de dire oui au monde. Dans une sorte de oui au monde, mais avec tout ce qu'il a d'horrible. Et donc, oui aux machines, oui aux jeunes filles qui se font violer, à toutes les choses monstrueuses, aux souteneurs, à la pauvreté crasseuse, aux gens qui n'en ont rien à faire de la poésie même. Une sorte de positivité, parce qu'il veut être toute chose. Dans son ode triomphale, Ça s'achève par ce verset « Ah, ne pas être à moi seul tous les gens et le monde entier. » Alors vraiment, ça fait partie des poèmes que je préfère, cette ode triomphale, mais je vais vous en lire le début, qui dit bien une sorte d'adhésion aux machines qui est assez extraordinaire. « À la lumière douloureuse des grandes lampes électriques de l'usine, j'ai la fièvre et j'écris. » J'écris grinçant des dents fauves devant la beauté de tout ça, devant la beauté de tout ça totalement inconnue des anciens. Et le plaisir que ce soit inconnu des anciens. Ô roue, ô engrenage, rrr, éternel. Et ce n'est pas un alléluia, c'est un rrr éternel. Violent spasme retenu des mécanismes en furie, au dehors et au dedans de moi, par tous mes nerfs disséqués au dehors, par toutes les papilles au dehors de tout ce avec quoi je sens. J'ai les lèvres sèches, ô vous, grand bruit moderne, de vous entendre d'outrageusement près. Et la tête me brûle à vouloir vous chanter dans un excès d'expression de toutes mes sensations, dans un excès contemporain de vous, ô vous, machine. En fièvre et regardant les moteurs comme une nature tropicale. C'est magnifique cette phrase. En fièvre et regardant les moteurs comme une nature tropicale. Immenses tropiques humains de fer, de feu, de force, je chante. Et je chante le présent, et aussi le passé et le futur, car le présent, c'est tout le passé et tout le futur. Et il y a Platon et Virgile dans les machines et les lumières électriques. Rien que parce que jadis, il y a eu, et c'était des humains, Virgile et Platon. Et des morceaux de l'Alexandre le Grand d'un possible 50e siècle, des atomes qui devront aller s'enfiévrer dans le cerveau de l'Échille du 100e siècle, parcourent ces courroies de transmission et ces pistons et ces rouages en rugissant, crissant, vrombissant, glapissant, ferraillant, me faisant un trop-plein de caresses au corps dans une seule caresse à l'âme. Ah ! Pouvoir m'exprimer tout entier comme un moteur s'exprime. Être complet comme une machine. Pouvoir s'avancer dans la vie aussi triomphant qu'une automobile dernier modèle. Pouvoir au moins me pénétrer physiquement de tout cela, me déchirer tout entier, m'ouvrir complètement, me faire poreux à tous les parfums d'huile et de chaleur et de charbon de cette flore stupéfiante, de cette flore noire, artificielle, et insatiable, fraternité avec toutes les dynamiques, libertine furie d'être partie agent du roulement ferré, du roulement cosmopolite, des intrépides trains, du labeur transporteur de cargaison des navires, du tournoiement lubrique et lent des grues, du tumulte discipliné des usines et du quasi-silence vrombissant et monotone des courroies de transmission. Alors, il y en a des pages comme ça, hein, mais je voulais quand même qu'on approche cette langue de Pessoa, d'abord, mais surtout d'Alvaro de Campos, parce que dans les autres poèmes, il est au contraire dans une poésie très statique, très sobre. Là, vous voyez, c'est une poésie du souffle à la Walt Whitman. D'ailleurs, il y a un salut à Walt Whitman parmi les grandes odes d'Alvaro de Campos. Mais là, vous voyez, c'est salut, c'est le souffle, c'est... Mais pour assumer tout le monde moderne, mécanique. Et la question que vous pouvez vous poser, c'est quelle est la condition de possibilité d'un tel discours ? C'est aussi un émerveillement devant les rouages, un émerveillement devant cette dynamique des machines, la dynamique de la locomotive. Mais est-ce qu'il y a encore, avec un appareil, cette dynamique-là ? Est-ce qu'il y a encore quelque chose à voir ? Vous voyez, là aussi, c'est ce que disait Damien tout à l'heure, on ne voit plus exactement le mouvement. L'esthétique est désormais une esthétique des images, une esthétique de graphiste, de web designer, mais il n'y a plus l'enthousiasme même que pouvait provoquer la machine. Si vous ouvrez votre iPhone, qu'est-ce que vous voyez ? Qu'est-ce que vous voyez ? Ouvrez-le, essayez. Il n'y a rien à voir, alors qu'on peut imaginer, vous souleviez un ancien capot, je vous l'avais dit, de voiture, vous voyez une vieille machine dans une vieille usine, dans un musée, vous la voyez fonctionner, vous avez une sorte d'émotion esthétique. Vous êtes touché par ces mouvements-là. Il n'y a plus rien à voir, déjà. Ça, c'est un point, simplement. Ce que nous voyons, c'est ce qui se joue sur l'écran, bien sûr, mais c'est plus le dispositif mécanique lui-même qui nous intéresse. Donc il y a une transformation entre ce qu'est la machine et ce qu'est l'appareil. Rien que ça, c'est une transformation vraiment radicale.